On va passer cette soirée en compagnie de machines. On va même entendre leur premier cri parce que oui, comme vous, elles ont une âme pas toujours sereine. Blues rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Blues rider, motorcycle hero. Baby, he's blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, he's screaming the truth. America, America's killing its youth. He's screaming away. America, America's killing its youth. America, America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider, le cavalier fantôme, en l'occurrence le héros à moto, c'était la voix de Alan Vega au sein du duo new-yorkais Suicide. Ça remonte à 1977, une chanson qui évoquait ce qu'on appelle la pulsion de mort. Ghost Rider, héros motocycliste, hey baby, il crie la vérité, l'Amérique tue sa jeunesse. Alan Vega, disparu en 2016, était un de ces marginaux américains qui, comme Lou Reed ou Iggy Pop, ont eu un don de visionnaire. Sans Alan Vega et son collaborateur, le joueur de synthétiseur Martin Rev, le rock n'aurait jamais pris, dès la fin des années 70, ce tournant vers l'électronique qui a fait émerger un nouveau continent musical. Ce qu'on a appelé l'électro-rock ou synth-pop en Angleterre, pop synthétique, laquelle incluait sa variante dite industrielle, souvent très sombre. Alors pourquoi vous faire écouter Suicide dans cette paisible soirée de juin? Eh bien parce que la vision d'un film qui va sortir au cinéma après-demain m'a rappelé la façon dont cette musique, née dans un milieu très marginal, a bousculé les habitudes. Elle a suscité tantôt fascination, tantôt incompréhension, tantôt même rejet absolu. Le musicien français Marc Collin, on le connaît surtout pour sa série dite Nouvelle Vague, réalisée au milieu des années 2000, une série d'enregistrements, pas une série de films, hein, où il a demandé à diverses chanteuses, dans mon souvenir c'était que des chanteuses, mais peut-être qu'il y avait des hommes, je sais plus, de reprendre façon bossa nova vaporeuse des mélodies de cette période, électropop froide ou bien rock post-punk tendu et menaçant. Il a fait par exemple quelque chose de doux et de langoureux avec Love Will Tear Us Apart de Joy Division, ce qui peut laisser songeur. Mais enfin, c'est une entreprise très habilement menée, réalisée avec beaucoup de goût et beaucoup de soin par un très bon musicien, et ça a beaucoup séduit tout autour du monde. Bref, dans ce film qui s'appelle Le Choc du Futur, Marc Collin a imaginé un personnage de jeune musicienne parisienne de la fin des années 70. C'est Alma Jodorowsky qui l'incarne. Une musicienne à qui une sorte de Jean-Michel Jarre, enfin moi c'est ce que j'ai imaginé, absent, aurait laissé les clés de son studio. Un studio futuriste de la fin des années 70, envahi de machines, qui ressemble à un laboratoire de la NASA. Et cette jeune femme invente, entre autres, grâce à une boîte à rythme, alors une nouveauté absolument avant-gardiste, une électropop nouvelle, enfin quelques chansons. Alors ça fait un drôle d'effet de voir évoquer dans un film une période qu'on a bien connue, oui j'ai bien connu ça, un milieu qu'on a pu frôler, des personnages qui ressemblent à des musiciens que j'ai croisés jadis. Alors bon, pour être franc, il me semble assez improbable que dans le milieu extrêmement macho qu'était la musique de ce temps-là, y compris underground, une jeune femme ait pu jouer un tel rôle. Mais l'ambition de Marc Collin, il faut lui en être très reconnaissant, est d'évoquer ainsi, par cette fable, le rôle que des femmes, compositrices du XXe siècle, complètement inconnues en dehors d'un cercle étroit de connaisseurs, ont pu avoir dans l'invention de la musique électronique. Alors, il cite des noms, on voit ça dans les crédits à la fin du film, des noms qu'en toute honnêteté, j'ignorais du tout au tout, comme l'américaine Laurie Spiegel, ou bien l'anglaise Delia Derbyshire, auteur du premier thème de la série fantastique Doctor Who, dont je connaissais néanmoins très bien la version orchestrée par l'atelier de création radiophonique de la BBC au début des années 70. Et puis, Marc Collin a bien le droit de rêver d'une époque qu'il n'a pas connue et de projeter sur elle ses fantasmes, après tout le monde a fait ça, et les musiciens plus encore que les autres. D'ailleurs, le film montre extrêmement bien, dans les échanges de son personnage avec ses pittoresques interlocuteurs de la fin des années 70, qu'une femme jeune créant de la musique avec des machines ne pouvait se heurter qu'à un double préjugé. L'incompréhension face à la musique électronique, jamais des machines vont remplacer des humains, personne ne voudra jamais payer un ticket de concert pour aller voir ça, il faut vraiment avoir perdu la boule pour croire que ça va marcher un jour, etc. etc. Et puis le mépris de la profession envers les femmes, on veut bien les accepter comme chanteuses ou comme danseuses, mais jamais au-delà. Alma Jodorowsky tient très bien le film, qui repose vraiment sur ses épaules, et il y a une très jolie scène où Clara Luciani, la chanteuse, qui n'a même pas eu besoin de changer de coiffure pour être crédible dans son apparence de jeune femme de 79, crée une chanson avec le personnage de Alma Jodorowsky. C'est un des moments touchants d'un film qui, dans sa simplicité, l'est souvent, et qui a le mérite de rappeler que dans la musique, ce qu'il y a de plus important et de plus juste, c'est l'innocence. Voilà, c'est ce que montre très bien donc ce film qui s'appelle Le Choc du Futur. Après, il y a peut-être, enfin c'est mon point de vue, hein, quelque chose d'un peu trop tendre et décontracté dans le personnage joué par la comédienne. Il y avait, enfin dans mon souvenir, hein, chez ceux qui faisaient alors ce genre de musique électronique, quelque chose d'ingénu, oui c'est vrai, mais aussi en même temps de très tendu et de très crispé. Ils avaient souvent, ces gens-là, une façade dure, en tout cas narquoise. Ils n'étaient pas totalement froids dans la vie, c'est vrai, ils riaient beaucoup, et d'ailleurs ils pensaient pas tant que ça à l'argent, et même parfois pas du tout, j'ai connu des cas. Mais enfin, il y avait chez eux un mal-être palpable, une sorte de dégoût vis-à-vis de leur époque, une rage glacée qui pouvait ressembler à du cynisme et qui était en fait du désespoir. Je vous en reparlerai dans l'émission de demain où on écoutera le son de quelques pionniers français du genre, parce qu'il y en a eu quelques-uns et non des moindres. Mais ce soir, je tenais à souligner la façon dont, initialement, le rock'n'roll le plus élémentaire ou viscéral, on l'a entendu avec Suicide, a pu ouvrir la voie à une musique nouvelle, purement électronique, parce qu'à l'époque, il y avait aussi ça.
TVOD. 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 I don't need a TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD. I don't need no TV screen. I just stick the aerial into my skin and let the signal run through my veins. TVOD.
TVOD, une overdose de télévision, c'était signé en 1978 par un mystérieux groupe dont on ne savait rien et qui s'appelait The Normal. Je n'ai plus besoin d'écran, je me plante une antenne dans la peau et je laisse le signal envahir mes veines. Alors bien sûr, l'image renvoyait à l'injection d'héroïne par intraveineuse, mais il y avait plus. Cette vision effrayante, comme sortie d'un film du Canadien David Cronenberg, avait quelque chose de prophétique. Elle anticipait en somme notre époque, où par l'entremise des écrans de PC, casques audio, jeux, réseaux sociaux, multiples applications sur smartphone, beaucoup d'entre nous injectons en permanence informations, images, musique, frôlant l'overdose chaque jour. Et au fond, c'est un des rôles essentiels qu'a joué cette musique électronique, grinçante et pas très souriante de la fin des années 70, d'écrire en sons, rythmes et chansons ce qui était en train de devenir une humanité mutante. Alors derrière le mal nommé The Normal, c'était bien sûr une antiphrase, se cachait un personnage clé de ces années-là, l'anglais Daniel Mellor. Cet étudiant en cinéma, passionné par le groupe de musique électronique allemand Kraftwerk, a créé à la fin des années 70 une compagnie de disques qui s'appelait Mute. Mute Records, hein, les disques muets, ben, fallait le trouver. Mute a lancé, entre autres, ben oui, c'est lui qui les a découverts, le groupe Depeche Mode, c'est pas rien. Et puis aussi parce que, en fait, le champ d'intérêt de Daniel Mellor était très large, il a aussi découvert et lancé Nick Cave avec les Bad Seeds, et puis plus tard aussi Moby, et puis plein d'autres. Mais Daniel Mellor était aussi, il est aussi musicien à part entière, et il avait pour ainsi dire une double identité. Parallèlement, en 79, sous le nom de Silicon Teens, il avait enregistré au synthétiseur un album de reprise de rock'n'roll des années 50 et 60. Et c'est Daniel Mellor qui chantonnait tout ça en annonnant d'une voix nasillarde de dessins animés comme décérébrés, des reprises de Chuck Berry, etc. J'avais failli vous en passer une, mais là, on est un peu pris par le temps. Ça sera peut-être pour une autre fois, une autre vie, je ne sais pas. Voilà. Alors, tout ça, c'était des choses aussi que faisait le groupe américain, enfin, le chanteur américain Mark Mothersbaugh au sein de son groupe Devo, un groupe originaire de la ville de Akron, dans l'Ohio, aux États-Unis, donc, qui est Akron, qui était alors la capitale industrielle du pneu. Et on a entendu juste avant la chanson de Devo, qui était la plus connue, qui s'appelait Mongoloid. Alors, il faut se rappeler que Devo a occupé un immense espace inimaginable aujourd'hui durant les années 78-79. C'était un groupe aussi important que les Talking Heads. C'était des étudiants en cinéma qui se présentaient sur scène en tenue de cosmonaute de science-fiction, enfin entre le cosmonaute de science-fiction et le pompiste de l'époque. Enfin, d'ailleurs, tout à fait possible qu'ils aient secrètement inspiré les frères Bogdanov. Enfin, c'est au niveau de l'inconscient, j'imagine. Ils se ressemblaient tous, les membres de Devo, comme une bande de clones issus d'une expérience à moitié ratée. Ils portaient tous les mêmes lunettes en écaille des années 60 et ils s'agitaient dans une espèce de danse spasmodique qui se voulait robotique. Ils avançaient une théorie moitié loufoque, moitié sérieuse, selon laquelle l'espèce humaine avait en fait entamé une régression irréversible vers une forme de déshumanisation et donc de dé-évolution, une évolution à rebours, d'où leur nom de Devo. C'est une théorie qui, quand on y réfléchit, n'était peut-être pas aussi farfelue qu'il y paraît. Crash, c'était le titre d'un... C'était le titre de la chanson qu'on vient d'entendre, qui remonte au début des années 80, signé Cass Product. Et 40 ans, près de 40 ans plus tard, c'est sur France Inter ce soir, un duo français, pour ça que je dis Cass Product et non Cass Product, dont la chanteuse Mona Soyoc chantait, vous l'avez entendu, en anglais. Elle était de parents argentins, mais elle avait été élevée en France. Elle était aussi passée par Londres, où elle avait chanté dans des orchestres de jazz, ce qui s'entend d'ailleurs dans sa voix, d'une qualité largement supérieure à ce qu'on entendait en France dans le genre au début des années 80. Alors à Nancy, Mona Soyoc s'était associée en 1980 à un jeune infirmier psychiatrique qui s'appelait Daniel, surnommé Spatz, joueur de synthétiseur et dont d'ailleurs je salue au passage la mémoire. On a en effet eu la tristesse d'apprendre sa disparition il n'y a pas très longtemps. Alors Cass Product a eu beaucoup d'impact sur le mouvement post-punk international. En France d'ailleurs, on disait bizarrement New Wave, une étiquette qu'en dehors de notre pays, personne n'utilise, soit dit en passant, pour désigner cette mouvance. Ce mélange de sensualité et de froideur électronique que représentait Cass Product et puis d'autres était clairement inspiré par le duo Suicide de Alan Vega et Martin Rev qu'on a entendu au début de ce programme. Cass Product a d'ailleurs partagé l'affiche à l'Olympia en 1982 avec Alan Vega. Alors juste avant, une bizarrerie, Hot on the Heels of Love, c'était le groupe anglais Throbbing Gristle, drôle de nom pour un groupe, cartilage palpitant ou tendon vibrant, c'est selon. Il paraît que dans l'argot du nord de l'Angleterre, ça désigne en fait l'érection masculine. Voilà. Apparu à la fin des années 70, Throbbing Gristle est à égalité avec Suicide, un autre pionnier de ce qu'on a appelé le rock électro-industriel. D'ailleurs, la première ambition du fondateur de Throbbing Gristle, de son vrai nom Neil Maxon, enfin il se fait appeler depuis très longtemps Genesis P. Orridge, est d'abord de présenter le reflet du monde industriel et technologique qui était déjà le nôtre il y a 40 ans, efficacité sans âme, froideur mécanique, inhumanité, puis aussi son envers, ses poubelles, sa pornographie, ses déchets, ses maladies, enfin toutes ces anomalies inquiétantes, ce qui a situé ce groupe au croisement de l'exhibition, de la cérémonie sacrificielle et de l'art contemporain. Les premiers enregistrements de Throbbing Gristle en 77 étaient faits de bourdonnements synthétiques et sons bizarres d'origine indéterminée. Genesis Peorage restait des paroles d'un ton nasillard et monocorde, une des caractéristiques de la musique industrielle naissante forcément liée à l'électronique. Et la chanson qu'on a entendue, Hot on the Heels of Love, a quelque chose de sensuel et de froid à la fois, avec la voix susurrée de sa compagne Christine Newby, dite Cozy Fanny Tutti. Alors aujourd'hui, c'est un style presque banal, mais en 79, ce mélange de suggestions érotiques, de bruits inquiétants et de rythmes électroniques oppressants, c'était très nouveau et tout à fait avant-gardiste. Tout de suite, un autre témoignage, encore plus obscur de la même période, l'anglais, le groupe anglais, c'était un trio, Fat Gadget, mais enfin c'était essentiellement son leader qui avait tout conçu. Son nom, c'était Frank Tovey, un garçon qui se destinait initialement au théâtre et au mime, alors qu'il avait absolument aucune aptitude musicale. Il avait bricolé tout seul chez lui de la musique avec un magnétophone, puis une boîte à rythme et un petit synthétiseur de la marque Korg. Frank Tovey a envoyé une cassette à Daniel Miller, qui en 79 était, comme je vous le racontais, en train de monter sa propre compagnie de disques, Mute. Ce titre de Fat Gadget s'appelle Ricky's Hand. Thank you.
Very Good Trip, Mishka Assayas.
Mussolini, le Mussolini, considéré comme une danse imaginaire, c'est singulier. En Allemagne de l'Ouest, fédérale bien sûr, à Düsseldorf, la Valerena était née à la fin des années 70, un duo chanteur-joueur de synthétiseur sur le modèle de l'américain, enfin du New Yorkais Suicide. Le duo allemand s'appelait DAF, on disait DAF, soit Deutsch-Amerikanische Freundschaft, l'amitié germano-américaine, un nom évidemment grinçant et ironique. DAF s'était formé donc à Düsseldorf, le chanteur du duo s'appelait Gabi Delgado Lopez, c'était un fils de travailleur immigré espagnol, et d'ailleurs c'était un des seuls punks de cette ville qui en comptait très peu. Il avait rencontré là Robert Girl, qui est un pianiste et compositeur formé à Munich à la musique classique, qui était alors attiré plutôt par le free jazz, et puis l'électronique était arrivée, et évidemment tout changeait. Punk, Gabi, elle était dans son comportement absolument frénétique sur scène, tandis que Girl, lui, restait planté, droit comme un piquet devant ses machines, comme l'homme de science qu'il était, c'est un peu la loi du genre. Alors, faut dire Duff était très punk dans les thèmes de ses chansons. Der Mussolinien, le titre que vous venez d'écouter, c'était en 1981. Un titre très dansant, jouait avec les souvenirs encore extrêmement présents du totalitarisme en Europe. Après tout, 1981, la Seconde Guerre mondiale avait pris fin, quoi, 36 ans auparavant. Les souvenirs étaient loin d'être effacés parce que, bien sûr, l'Europe était encore coupée en deux et le totalitarisme à l'Est était une réalité qui était vécue par des centaines de millions de personnes encore. Alors quand Gabi Delgado Lopez encourageait les danseurs à danser le Mussolini, danser l'Adolf Hitler, remuer leur cul et danser le Jésus-Christ, c'est un humour extrêmement grinçant qui résonne en profondeur chez ceux qui l'écoutent. Ça remue en tout cas des thèmes que certains auraient préféré qu'on laisse tranquille, quoi. Toujours à Düsseldorf, il y avait aussi un groupe qui, malgré son nom, était 100% allemand et qui s'appelait Liaison Dangereuse. Ils avaient des collaborateurs communs avec Duff. Un groupe Liaison Dangereuse qui n'a pas eu une durée de vie très longue, mais dont quelques titres sortis au début des années 80 ont eu une influence souterraine, durable, en particulier sur la musique de danse électronique et la techno naissante. Liaison Dangereuse avait une étrange particularité, enfin surtout pour un groupe allemand, c'est qu'ils chantaient leurs titres en fait en français ou en espagnol, dont celui-ci, Los Niños del Parque.
A besos y dinero, los niños y las niñas.
Sans doute avez-vous reconnu ce titre Night Clubbing, c'est un des plus connus de Iggy Pop dans sa collaboration avec David Bowie dans la seconde moitié des années 70 et dans l'original qui figure dans un album de 77 donc signé Iggy Pop qui s'appelle The Idiot. Eh bien le synthétiseur reste simplement utilisé en nappe hein, comme dans la musique dite planante de la période à la façon de cordes artificielles, c'est une couleur parmi d'autres. Mais la chanson repose sur une basse, une batterie, un piano et puis un long et lancinant solo de guitare du portoricain Carlos Alomar. Et dans la version qu'on vient d'entendre, signée juste un an après par un jeune groupe encore inconnu de Sheffield, une ville du nord de l'Angleterre, le groupe s'appelait The Human League, eh bien on a changé de planète. Tous les sons sont froids et électroniques et dans l'inflexion qu'il donne à sa voix, eh bien le chanteur a retiré toute chaleur. Ça a complètement disparu. Phil Oakey, donc ce chanteur qui chante cette chanson d'Iggy Pop, a une voix de crooner qui est agréable mais distante, froide en somme, un autre type d'émotion. Pour se quitter, il nous reste un peu de temps, pas beaucoup, un très beau titre, Mit dir, ça veut dire avec toi en allemand, signé Robert Girl, on l'a rencontré tout à l'heure avec DAF, et ce très beau titre, donc il signe seul, peut évoquer Kraftwerk avec quelque chose de plus trouble et de plus romantique, ça remonte à 1983. Robert Girl, il se trouve qu'il a beaucoup collaboré par la suite dans les années 80 avec la chanteuse écossaise Annie Lennox, à la moitié du duo Eurythmics, hein, vous savez, les auteurs du fameux Sweet Dreams Are Made of This, et vous allez l'entendre, il y a quelque chose de vibrant dans ce titre, les machines avancent comme ça, sans réfléchir, et la voix du chanteur semble s'avancer, elle, tristement, dans un paysage minéral et figé, comme victime de cette mécanique. Il est triste, il est seul, c'est très beau. Robert Girl, Mit dir. Désolé de chanter l'élégiaque Mit dir de l'allemand Robert Girl, c'était en 1983. Il me reste juste le temps de remercier Anna Bui qui ce soir exceptionnellement a réalisé l'émission, Jérémy Guillon à la technique, merci à Stéphanie Leroy à la discothèque de Radio France et à Zora Ben Smiley pour le site internet. J'ai juste le temps de vous annoncer que si vous êtes intéressé par le film de Marc Collin, Le Choc du Futur, et vous avez raison d'être intéressé, il y aura une avant-première publique pour les Parisiens et les banlieusards, mardi 18 juin au 3 Luxembourg à 20h. Voilà.